Émilie ?
Oui ?
Assieds-toi, faut que je te parle.
Oh, tu me fais peur.
J'ai enfin rencontré quelqu'un.
Enfin ?
Oui, et je pense que c'est le bon. On s'écrit tous les jours, il répond à tous mes mails et il m'a même fait des tableaux de bord.
Mais tu me parles de qui ?
Bah de mon comptable, tu croyais que je parlais de qui là ?
T'as vu avec ton comptable ? C'est LA phrase quotidienne qui illustre bien la relation de proximité qu'on a avec nos clients. Dans ce podcast, je vous dévoile les coulisses de l'expertise comptable, mais attention, hein, pas le plan comptable, les bilans, les liasses fiscales, celles des hommes et des femmes qui créent, qui se développent grâce à notre accompagnement. Je suis Olivier Den et deux fois par mois, je vous retrouve pour un épisode qui vous fera changer d'avis sur mon métier. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette citation au moins 100 fois et les cabinets d'expertise comptable n'échappent pas à cette règle. Alors qu'il s'agisse d'acquisition ou de fidélisation de nouveaux clients ou encore du recrutement de nouveaux collabs, les experts comptables doivent soigner leur image comme n'importe quelle entreprise. Pourtant, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et on n'a pas forcément appris ça dans notre cursus. Alors que vous ayez simplement besoin d'un site internet, de cartes de visite ou tout simplement de conseils, je ne peux que vous inciter à aller rencontrer Classe 7, à aller voir Sten et toute son équipe. Ils pourront vous proposer des solutions innovantes et pertinentes. Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Et donc aujourd'hui, on est en présence de Lucie Janière, c'est ça ?
C'est ça. Hein,
je connaissais en fait bah forcément le nom de ta boulangerie, mais je connaissais même pas ton nom, prénom, parce qu'on se connaît de visu, parce que tu dois me voir passer derrière les caisses une
exact.
Fois de temps en temps, et puis bah, en bon sablé, on se croise forcément, mais on se connaît pas personnellement, et je trouve ça aussi intéressant de tourner des épisodes avec des gens bah, en fait, qu'on connaît pas. Pas ou très peu, quoi. Est-ce que ça permet.
Qu'on croise.
Ouais, qu'on croise, mais qu'on connaît pas ou peu. Et voilà, ça permet de se découvrir. Là, on va prendre une heure ensemble, si ça te va, pour aller
ça
un peu à la rencontre de ton métier, de ta boutique, de ton équipe, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important
exactement.
Pour toi, pour vous. Donc, pour les sablés, le nom va faire tilt. On est avec Lucie de la boulangerie Lucette. Voilà. Alors aujourd'hui, Lucette, il y a eu pas mal de noms avant et j'imagine que t'es pas toute nouvelle dans le métier. Pour commencer justement, Lucie, je te propose de nous dire un peu qui tu es, ce que tu as fait avant de tenir la boulangerie Lucette aujourd'hui au sable et de nous rappeler un petit peu ton parcours professionnel, si ça te va.
Eh bien, ça me va. Donc, Lucie Janière, j'ai 39 ans cette année. Ça fait donc la septième année que nous gérons la boulangerie Lucette. Alors, avant d'en arriver là, j'ai suivi un cursus scolaire totalement différent de la boulangerie-pâtisserie. J'étais plus dans le domaine de l'aménagement du territoire et développement local. Et il s'avère que j'ai rencontré mon mari dans ma jeunesse, qui a toujours été pâtissier et qui a toujours souhaité s'installer. Donc au début, j'étais un peu contre, parce que je connais les difficultés du métier, les horaires aussi à rallonge, les horaires le week-end. Et jusqu'au jour où mon mari s'est pris vraiment de passion par le métier, enfin j'avais toujours été passionnée, mais vraiment encore plus, où il souhaitait ouvrir sa boulangerie. Donc il a passé son CAP boulanger, parce qu'il n'était que pâtissier.
C'est une première question, là tu réponds déjà à ma question, tu vois, j'avais dit, j'ai l'impression qu'on est fait pour s'entendre au niveau de l'interaction, j'allais direct te poser une question justement, c'est un métier qui est normé, comme le nôtre, le métier d'expert comptable, il y a un diplôme officiel et tu peux pas mettre ta plaque d'expert comptable n'importe comment, tout comme tu peux pas mettre ta plaque de boulanger n'importe
exactement.
Comment. Et lui, donc ton mari, il était à la base pâtissier, il a rajouté la...
En fait, il est pâtissier, il a suivi son cursus scolaire dans le domaine de la pâtisserie, il a fait tous les examens possibles dans la pâtisserie, et il s'est dit que pour ouvrir une boulangerie-pâtisserie, il fallait qu'il connaisse aussi le métier de boulanger, qui est totalement différent de la pâtisserie. Donc il a fait un CAP boulanger en 6 mois à l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie dans le nord de la France, à Rouen, et suite à ça, donc il a obtenu son CAP boulanger, et il a eu pas mal de notions de gestion d'entreprise aussi.
Donc, pendant ce CAP ?
Pendant ce CAP.
Ah ouais, alors c'est là où tu vois que le cursus de formation pour ce type de métier est quand même pas mal foutu et a vocation à inciter les gens à s'installer. Parce que si on met justement des notions et des cours de gestion d'entreprise indirectement, c'est que ça montre bien que ça prépare à l'installation, chose que vous avez faite après.
Alors ça, c'était un souhait de sa part,
ouais.
Mais tous ne suivent pas ce cursus-là.
Ah, c'est une option. C'est une option.
C'est une option. On n'est pas obligé pour la boulangerie-pâtisserie de suivre ce cursus-là de gestion d'entreprise.
D'accord. Okay.
Dans la grande majorité des cas, d'ailleurs, beaucoup ont leur CAP, bac pro dans le domaine de la boulangerie et de domaine de la pâtisserie. En revanche, gestion d'entreprise, ça se gère un peu en général sur le tas. Mais même en ayant cette formation-là de 6 mois, il y a beaucoup de choses qu'on apprend aussi sur le vif.
D'accord, ok. Et toi, tu étais donc en poste au Sable ailleurs?
Alors, pas du tout, j'étais dans le tourisme. Je travaillais pour Gîte de France Vendée à La Roche-sur-Yon.
D'accord.
Et j'étais chargée de développement local, donc de gérer un petit peu toutes les visites d'hébergement sur le secteur de la Vendée, pour leur attribuer un classement donc en étoile et en épi. En épi, c'était lié,
ouais,
à Gîte de France.
Mmh.
Et en étoile, plus au niveau de la préfecture. Donc, j'avais un métier quand même très sympa,
ouais,
avec des déplacements, et c'était très agréable. Et je savais que de quitter ce métier-là pour suivre mon conjoint, c'était quelque chose qui me peinait. Mais je savais aussi que de ne pas suivre mon conjoint dans cette aventure de boulangerie-pâtisserie, bah, que notre chemin allait s'écarter. Et moi, j'avais pas envie de ça. J'avais envie qu'on avance ensemble.
Ouais, intéressant. Et donc là, par rapport au terme que tu utilises, on voit bien que c'était un projet familial. Et entre guillemets, on embarque tout le monde dans ce projet-là. C'est quelque chose qu'il avait en tête depuis longtemps. J'imagine qu'il a fait un petit passage en tant que salarié quelque part avant, non?
Oui, alors il a été, suite à ses études, il a été salarié pâtissier dans une grande maison à Chamonix, puisqu'on est resté là-bas 5 ans.
D'accord.
Il a été ensuite responsable pâtissier à Tartines et Gourmandises à La Roche-sur-Yon. Donc, même chose, à peu près 5 ans. Et en 2017, suite à sa formation de 6 mois à l'INBP, le patron de Jackie, donc monsieur et madame Veillet de Tartines et Gourmandises La Roche-sur-Yon, nous ont proposé de s'associer et de reprendre la SARL, le fournil de la Lille, donc Lucette.
Arago?
Exactement.
Ouais. Ouais, parce qu'en effet, avant, pour les anciens des Sables, on se souvient en effet, l'enseigne sur la boulangerie à Arago, c'était Tartines et Gourmandises, qui est donc liée en fait à monsieur, tu m'as dit...
Monsieur et madame Veillet.
Veillet, qui ont différents points de vente sur La Roche.
C'est
ça. Il y en a plusieurs. Hein,
Alors, ce sont des chouettes personnes qui ont ouvert donc 2 boulangeries Tartines et Gourmandises à La Roche-sur-Yon.
Ouais.
Il y en a une à Mouilleron-le-Captif. En fait, ils se sont associés avec des anciens salariés à eux pour ouvrir cette boulangerie à Mouilleron.
D'accord.
Ils ont fait ce même concept à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec un ancien salarié à eux. Et ils ont procédé au troisième boulangerie Tartines et Gourmandises associée avec nous sur les Sables.
D'accord. Alors, on est sur un concept qui m'interpelle, enfin plus qui m'interpelle, qui m'est cher, c'est l'installation des anciens salariés. Alors, c'est quelque chose que ma femme a eu la chance de connaître et de mettre en place dans le cadre de la pharmacie. Parce que c'est pareil, en pharmacie ou en boulangerie, en expertise comptable, tu peux être soit salarié d'un cabinet, d'une boulangerie, hein, soit t'installer à ton compte, quoi. Et t'as souvent des bons éléments en tant que salarié qui peuvent, au fur et à mesure des années, se dire « Non mais attends, pourquoi pas moi ?» Et puis moi aussi, j'ai cette volonté entrepreneuriale. Comment je fais pour y aller, quoi ? Et puis en fait, là-dessus, bon, bah, y a plein de choses à gérer, mais il y en a quand même une qui est parfois un petit peu problématique aussi, c'est le coût de l'installation quand même, et le financement, et notamment en pharmacie, tu vois. Et dans ce cas-là, il y a une solution qui est parfois utilisée et qui fonctionne bien, c'est que les anciens patrons aident les nouveaux, enfin les anciens salariés, et donc les nouveaux installés, à aller vers ce projet entrepreneurial, en injectant un petit peu d'argent, en aidant dans le savoir-faire, etc., et en faisant une prise de participation. Alors, minoritaire dans ma conception des choses. Est-ce que tu peux nous dire, toi, justement, au niveau, alors sans rentrer dans le détail des finances et du capital, hein, mais c'était les anciens salariés étaient majoritaires dans leur affaire, ou ça se fait comment? Est-ce que ma question est claire?
Oui, alors, ouais. Question très claire. Je ne veux pas rentrer dans le détail de l'association qu'on a pu faire avec monsieur et madame Veillet. Le but principal, c'était vraiment de garder, en fait, alors je parle du point de vue de monsieur et madame Veillet, de garder les bons éléments qu'ils avaient dans leurs entreprises, les aider à s'installer, parce que comme ça, ils travaillaient aussi encore pour eux. Et de notre point de vue à nous, c'est vrai qu'on n'aurait pas eu cette association avec monsieur et madame Veillet, on serait parti sur une boulangerie forcément plus petite, oui, avec moins de chiffre d'affaires. Donc là, ça nous a vraiment donné un gros coup de pouce pour se lancer. Et puis, on a bénéficié, mine de rien, de la marque Tartine et Gourmandise, qui était très reconnue, très réputée. Et on a bénéficié aussi de tous leurs conseils, parce que ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils travaillent dans le métier. Donc, ils avaient beaucoup à nous apporter dans le lancement de l'entreprise. Ouais. Même s'ils ont été très, très présents, ils nous ont laissé quand même gérer, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend, en étant un peu seul sur les territoires face à toutes ces difficultés.
Ouais. Ah bah très clair, tu mets le point sur deux aspects clés justement dans le cadre d'une telle démarche, c'est bénéficier de la notoriété et du savoir-faire de la personne qui t'accompagne, que ce soit une franchise ou... parce que c'est pas une franchise, c'est des indépendants, hein, on est bien d'accord.
Complètement.
Et puis également, ça c'est le nerf de la guerre, aller sur des affaires au potentiel peut-être un peu plus gros, qu'on n'aurait pas pu forcément acheter ou auxquelles on n'aurait pas pu accéder en étant solo au début, sans appui quoi.
Ah bah c'est sûr, ouais, qu'on ne serait pas parti dans cette dynamique-là sans leur aide, en tout cas.
Ok. Donc là, vous reprenez donc Tartine et Gourmandise Les Sables.
C'est ça.
Voilà. Combien de temps dure cette première aventure et quels sont les premiers challenges à relever ?
Alors en fait, c'était convenu avec monsieur et madame Veillet, nos anciens associés, qu'au bout de 5 ans, on devienne totalement indépendant, qu'on reprenne en fait leur part.
Tu réponds indirectement à ma question de tout à l'heure, à savoir peu importe entre guillemets la répartition capitalistique au lancement de l'association, à terme, il était convenu que vous voliez de vos propres ailes et que vous soyez réellement vos propres patrons, également capitalistiquement parlant. Quoi.
C'est ça.
Pour bien évidemment à terme bénéficier des fruits et de la capitalisation que vous allez apporter sur l'affaire.
C'est
quoi.
Ça.
Ouais, cool. Super. Et donc oui, donc je t'ai coupé, hein, désolé. Donc 5 ans pour se dire, à horizon 5 ans, on veut être totalement chez nous. Comment ça s'est fait, cette négo ? Comment ça a été vécu pour eux, pour vous ?
Alors ça a été clair dès le début. En fait, au tout début de notre association, donc en 2017, quand on s'est lancé dans l'aventure, on a directement mis un pacte d'associés en listant tout ce qu'on souhaitait, ce qu'on ne souhaitait pas. Et on savait qu'au bout des 5 ans, on avait 5 ans pour réfléchir à ce qu'on voulait être dans 5 ans, comment se nommer aussi dans 5 ans. Parce que mine de rien, même si ça change pas en termes de produits, d'organisation, eh bien on change le nom, on doit changer quand même pas mal de choses, la façade, l'emballage. Enfin, il y a toute une dynamique derrière à mettre en place.
Et le changement de nom était déjà indirectement acté dans votre pacte d'associés au début ?
On aurait pu, il y avait différentes possibilités. On aurait pu faire comme Tartine et Gourmandise Mouilleron, c'est-à-dire qu'ils ont gardé le nom, mais tout en ayant 100% départ. Donc il y avait plusieurs options possibles. Après, nous, on a fait le choix d'avoir notre nom pour que ça nous représente totalement.
Super. Justement, alors je vais, comme ça tu auras le temps de répondre à ma question. Je vais te demander justement d'où vient le nom chez Lucette. Mais juste pour te laisser le temps de réfléchir à la réponse, même si ça va pas te prendre longtemps. Bravo, tu as donné la définition parfaite du pacte d'associés. Parce que souvent, les entrepreneurs qu'on accompagne, ils savent pas trop c'est quoi un pacte d'associés, qu'est-ce qu'on met dedans, machin. Et bon, alors ça peut être très simple comme ça peut être très compliqué, mais ce que je dis souvent pour simplifier, et tu comprendras que la vulgarisation et la simplification est importante chez Bel Eden, un pacte d'associés, c'est tout simplement deux associés qui mettent sur papier noir sur blanc ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Et c'est rien de plus que ça. Et ça peut être un papier très compliqué fait chez l'avocat, le notaire ou autre, tout comme ça peut être fait autour de la table, entre deux copains, autour d'une bière, en disant voilà, on met sur papier ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et une fois au moins que c'est posé comme ça, eh ben, on peut s'y référer plus tard et ça permet de dénouer, alors pas forcément tous les problèmes si jamais ça a été fait entre copains autour d'une bière, mais déjà, c'est un bon début, quoi, de mettre ce qu'on veut et ce qu'on veut pas.
Ça permet, en fait, de protéger chaque personne qui est dans ce pacte d'associés. Ça permet aussi de discuter des différentes possibilités de sortie, en fait, de ce pacte. Et puis, tout simplement, moi, je le vois un peu comme un contrat de mariage où il faut toujours voir ce qui est bien, ce qui est positif, mais il peut se passer des choses aussi négatives et il faut l'anticiper aussi.
Ouais, ouais, et le contrat de mariage ne génère pas le divorce. Hein. Au contraire, exact. Il facilite la séparation. Alors justement, chez Lucette, qui c'est cette Lucette?
Alors, donc pour expliquer un petit peu le pourquoi de Lucette, on a voulu mettre un prénom ancien pour rappeler un petit peu les produits authentiques que nous proposons dans notre boulangerie, pour rappeler les traditions, pour rappeler le fait maison, et surtout pour rappeler en fait que ce métier dont Jackie, mon mari, est passionné depuis qu'il est tout jeune, vient de ses grands-mères qui lui ont transmis la passion de la gourmandise. Et même si c'est pas le nom de leur grand-mère, on s'est dit qu'il fallait approprier ce nom à nous. Et Lucette vient du dérivé du prénom Lucie, qui est mon prénom. Et bon nombre de notre famille me surnomme Lucette.
D'accord.
Voilà le pourquoi de Lucette.
Bon, bah c'est très, très clair. Vous avez pensé à tout ça tout seul? Vous n'avez pas été accompagné par une agence de com, de branding ou autre pour...
Alors, c'est juste du... ouais. Sur le nom, non. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est Jackie qui a proposé ce nom Lucette. Et moi, je lui ai dit, oh non, non, hors de question de me mettre en avant comme ça. Parce que Lucie, c'est Lucette, on m'appelle Lucette. Donc, j'avais pas envie d'être en avant. Et puis, on a réfléchi à différents noms. On a fait appel à une agence de communication des Sables, donc Marceline Communication, qui nous a proposé d'autres noms. Et au final, après réflexion, on s'est dit, non, c'est Lucette. Il faut garder cette idée.
Ces histoires de noms, c'est toujours un sujet pour les entrepreneurs et les gens qui veulent se lancer. Et même pour moi, quand j'ai lancé le cabinet, c'est vrai que la recherche du nom pour la future boîte... Alors déjà, tu peux y avoir deux choses. Hein. Tu sais, il y a le nom juridique. Ça, entre guillemets, on s'en fiche un petit peu. Hein, c'est le nom qui est sur le cabis, c'est en haut à gauche sur les factures. Et puis, tu as le nom commercial, qui est celui, par contre, que tu vas utiliser au quotidien.
Qui est très important.
Qui, lui, est beaucoup plus important, puisque c'est celui qui va servir de support à la communication, etc. Et qui crée de nombreuses nuits blanches à beaucoup d'entrepreneurs. Je suis en train de lire, d'ailleurs, le livre de Frédéric Mazzella, de Blablacar.
Ouais.
Et il y a tout un laïus, justement, un chapitre du bouquin qui est consacré justement à la recherche des noms pour les startups et les entreprises. Et il raconte son histoire, pourquoi, du comment ils sont arrivés à Blablacar. Et c'est ultra intéressant.
C'est toujours très intéressant parce que ça raconte une histoire, en fait, de personnes et de nombre d'heures consacrées à cette réflexion-là pour en arriver à ce nom.
Ouais, et puis ils précisent bien que ce qui est important, c'est que, enfin, eux, ils ont des problématiques en plus que nous, on n'a pas, à savoir, il fallait que le nom soit prononçable dans toutes les langues plus ou moins facilement, que, enfin, il y avait plein de contraintes pour eux qui, dans nos modestes business à nous, on n'a pas. Et bon, pour terminer là-dessus, ils disaient également que ce nom qui paraît aujourd'hui commun et du génie, enfin, Blablacar, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est quand même super bien trouvé, quoi.
Complètement.
C'est, voilà.
Très évocateur.
Ouais, ouais, ouais. Et ben, au début, en fait, tout le monde se foutait de sa gueule. Ils disaient, non, tu peux pas partir là-dessus et tout, c'est n'importe quoi. En fait, ça faisait rire les gens. En fait, ça choquait juste ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'au premier avis, les gens disaient « Non, non, mais tu peux pas partir là-dessus, c'est déconnant. » Et au final, en fait, plus on avançait dans le temps, plus ils avançaient dans le temps dans la réflexion, plus en fait ce nom s'est imposé à eux et ils se sont rendus compte que c'était du génie et que c'était ce sur quoi il fallait partir, quoi.
Et c'est quand on en parle, justement, ouais, qu'on se dit que c'est une bonne solution et c'est ce nom-là.
Et il faut que le nom tienne dans le temps aussi, c'est ce qu'il disait. Parce que c'est vrai qu'en fait, tu as des effets de mode. On l'a vu justement avec les startups. On est encore dans ce monde-là, mais où tu avais des noms qui étaient très connotés startups et qui, au final, dans le temps, prenaient un petit coup de vieux au bout de 6-7-8 ans, parce qu'on était vraiment un peu dans la mode. Bah, comme dans la mode vestimentaire, où tu as des trucs des fois qui peuvent être vraiment dans l'air du temps. Et puis 4-5 ans après, tu te dis « Non, mais attends, c'est ringard. » Et bah, justement, la recherche de noms de boîtes, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui réfléchissent là-dessus, il faut vraiment que ça soit dans le cahier des charges. Il faut que vous partiez sur un truc qui va tenir dans le temps, parce que déjà, s'il faut tout refaire à 4-5 ans parce que ça a pris un coup de vieux, bah déjà, c'est des coûts, en fait. Hein,
Ou sinon, faut faire comme nous, faut partir sur un prénom ancien direct, et comme ça, on n'est pas...
Ou de l'intemporel. Ou de l'intemporel, exactement. Bah, l'intemporel tient dans le temps. Hein, c'est ce qu'on dit également au niveau de l'architecture. Au niveau de l'architecture, les maisons contemporaines, alors certes, peuvent plaire plus ou moins, mais en tout cas, ça tient moins bien dans le... C'est connoté dans le temps, c'est marqué.
Complètement.
Et on dit toujours, de la maison intemporelle, tient plus dans le temps, quoi. J'ai pas mal digressé là-dessus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est là pour discuter de tout ça. Alors justement, on est un petit peu dans la com, et puis on va y rester. Une des raisons pour laquelle tu es derrière ce micro, c'est parce que j'ai senti une certaine appétence quand même chez vous pour tout ce qui est communication. Alors, dans le sens positif du terme, pas de la communication bullshit, tout le monde est beau, gentil, machin. Vraiment des actions de com pertinentes, bien pensées. Il me vient à l'esprit là, la communication que vous avez faite à la Galette des Rois avec les fèves des commerçants et tout ça. Bref, dis-nous un petit peu la com chez vous. Qui pense à ça? Qui s'en occupe? Qui a la fibre? Enfin, je sais qu'il y a quelqu'un qui a la fibre comme chez vous. Est-ce que
Alors,
c'est toi?
En partie, c'est moi, mais beaucoup aidé par mon mari Jackie. Tout ce qui va être texte un peu, on va dire, déplacé, c'est mon mari. Moi, ouais. Je gère plus ce qui va être un peu plus, tout ce qui est photo. Et puis, je gère les diffusions sur les réseaux, donc Facebook, Instagram. Ça me prend énormément de temps. C'est vrai que de gérer ça en plus de tout ce qu'il y a à gérer à côté, ça demande énormément de temps. Ça, on s'en rend pas compte. Mais le but, en fait, de cette communication-là, c'est que nous, on se dit que tous les clients ne viennent pas tous les jours voir les nouveautés, voir ce que l'on propose. Et nous, on est dans cette action dynamique où on veut toujours faire des choses nouvelles, proposer des nouveaux projets et que les clients soient intéressés par ça. Et pour qu'ils s'intéressent à ça, il faut les en informer. Et le seul moyen qu'on a de les informer, il y a les réseaux sociaux. Bon, il y en a d'autres, mais les réseaux sociaux ont vraiment un réel impact. Alors, on s'en est rendu compte un peu par hasard. C'est que les premières années sur la Saint-Valentin, on avait fait des pommes d'amour comme pâtisserie pour la Saint-Valentin. On avait publié ça sur les réseaux juste pour dire voilà ce qu'on vous propose ce jour-là. Et en fait, toutes nos pommes d'amour qu'on avait pensé faire pour ce jour-là ont été commandées via les réseaux.
Ah oui, le stock était parti.
Ouais. Donc, il a fallu refaire une nouvelle pâtisserie pour la Saint-Valentin. Et là, on s'est dit waouh, il y a un impact de dingue quand même. Donc, c'est de là qu'est parti notre sens de la communication sur les réseaux. Après, nous, on a toujours été partie prenante de faire des choses différentes de toutes les autres boulangeries, c'est-à-dire de se démarquer, notamment, tu parlais de projets de fèves. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Tous les ans, on a un projet de fèves différent. On pourrait aller sur la simplicité et prendre des fèves Disney comme beaucoup font. Nous, on veut que ce soit en lien avec la commune des Sables, la ville des Sables, en lien avec la boulangerie, en lien avec les événements qu'il y a éventuellement au Sable. Enfin, faut toujours qu'il y ait un petit rappel et que ça parle aux clients. Donc ça, c'est un projet qui nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais qui est très important pour nous. Là, cette année, on a mis en avant certains commerçants du quartier Arago. Alors, ce qui était super, c'est qu'on a eu beaucoup de retours clients qui nous ont dit « Ah, je connaissais pas tel commerce ». Du coup, j'y suis allée avec la fève que j'ai gagnée et j'y retournerai. C'était génial. Merci de nous avoir donné cette possibilité-là de découvrir ce commerce-là. Voilà, donc pour nous, c'est de jouer collectif aussi.
C'est exactement ça, et je retrouve ça dans notre profession. Nous, on appelle ça un petit peu l'interprofessionnalité. C'est-à-dire que nous, quand on fait de la com au cabinet, il m'arrive des fois de parler des notaires, des avocats et tout ça. Et en fait, on fait notre com en même temps qu'on fait la leur, et en fait, c'est vertueux. Et ça nourrit tout le monde. Et là, en fait, via l'action de com qu'on vient de citer avec les fèves, c'est exactement ce que tu fais. C'est que tu bosses pour ta paroisse, indirectement, tu prêches pour ta paroisse, et c'est normal. Mais indirectement, tu fais le bien autour de toi et autour de ton quartier et des commerçants de ton quartier et de ta ville. Donc ça, c'est vraiment archi positif et c'est de la com bien pensée. C'est pour ça, enfin, je me permets de le dire, hein, et, enfin, c'est mon avis.
C'est gentil, merci.
et d'où ma question de savoir justement, est-ce que vous pensiez tout ça tout seul ou est-ce que vous faisiez accompagner? Parce que la difficulté, en fait, sur la com comme ça, c'est qu'il y a deux choses. Hein. D'une part, il faut avoir l'appétence et réussir à le faire. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Hein. C'est un métier à part entière. Et puis deux, faut avoir le temps, et tu viens de le rappeler à juste titre, ça prend énormément de temps, quoi. Et là-dessus, t'es un peu tiraillé, en fait. Enfin, moi, je le suis, puisque t'en as beaucoup qui vont dire « Non, mais attends, ton métier, c'est expert comptable, c'est pas d'aller publier un post LinkedIn sur la session de je ne sais trop quoi pour faire de la com. » Oui et non, tu vois, il y a le faire savoir, il y a le savoir-faire. Ton mari et toi aussi, peut-être indirectement, vous savez faire de la boulangerie, de la pâtisserie.
Alors, moi, non.
Non, du tout. Pas du tout. T'as même pas appris avec le temps. Enfin, bref. La boulangerie Lucette sait faire du bon pain et des pâtisseries. mais vous savez faire aussi un petit peu de com. Et puis, bah, nous, c'est pareil, en expertise comptable. Bien évidemment, on sait faire des liasses fiscales, des comptas, etc. Mais on sait faire un peu de com.
Alors, c'est hyper important maintenant dans toutes les entreprises, peu importe le domaine. On est obligé d'être présent sur les réseaux, obligé d'attirer un peu la clientèle. On ne peut plus attendre que la clientèle arrive, en fait. Il faut prouver, il faut montrer qu'on fait des choses, on les fait bien, qu'on donne envie. Et ça, c'est très important.
C'est pas usant, un peu? Je te pose la question autant que je me pose la question. C'est-à-dire que moi, on le fait au cabinet avec Émilie, avec toute l'équipe, depuis maintenant 6-7 ans. Et c'est vrai qu'il faut se renouveler. Aussi, le podcast en est le meilleur exemple, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau qu'on a apporté il y a un ou deux ans. Il faut suivre les tendances des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que les publications Facebook, je ne sais pas si tu as pris le temps, toi qui as 40 ans comme moi.
Pas encore.
Moi non plus, on a 39 tous les deux, mais j'arrondis toujours, parce que j'aime pas les chiffres. je ne sais pas si tu as pris le temps de regarder les publications Facebook qu'on faisait il y a 15 ans, on a l'air de gros nazes, quoi. C'est les publications de boomers, quoi. Les réseaux, tout ça pour dire que les réseaux sociaux évoluent énormément et il faut rester au goût du jour, quoi.
Alors, faut rester au goût du jour. Après, alors peut-être que c'est mon côté vieux jeu qui va parler.
Ouais. On est deux.
J'ai pas envie de partir dans parce qu'il existe de nombreux réseaux sociaux. On pourrait se mettre sur TikTok, on pourrait se mettre sur Twitter, on pourrait se mettre. Mais déjà, je trouve que le temps consacré. Alors nous, on a que Facebook et Instagram. C'est déjà énorme. En plus, je ne maîtrise pas du tout les autres réseaux sociaux. Et puis, ça a ciblé sur une autre clientèle aussi. Donc, alors moi, c'est mon côté vieux jeu, mais je me dis que je me limiterai à ça. Ça fait un an que je me dis qu'il faut que je sois sur LinkedIn. J'arrive jamais à dire
LinkedIn,
le nom.
Ouais.
Sauf que, manque de temps. Mmh. Mais il faut que je m'y mette.
Après, il y a une typologie de personnes sur ces différents réseaux sociaux, une âge. Alors, vous, la difficulté, en fait, c'est que vous vendez au bambin de 3-4 ans comme à mamie qui se fait ses derniers plaisirs à 95-100 ans. Votre panel de consommateurs, il est ultra large. Alors que nous, par exemple, moi, j'ai pas ou très peu de retraités et j'ai pas ou très peu d'enfants. Tu vois, et donc mon panel de clients, il se resserre. Et donc forcément, je ne vais pas aller chercher les mêmes réseaux sociaux que toi. Quoique, c'est-à-dire que, tu vois, TikTok, pour prendre l'exemple, TikTok, d'un point de vue business professionnel, ça ne va absolument rien m'apporter parce que c'est un réseau social très jeune. Quoique, comme tous les réseaux sociaux, il commence à y avoir...
Ça évolue.
Voilà, forcément. Mais bref, on peut aller plus loin en disant, tiens, TikTok, ça va me permettre quand même d'être un canal de recrutement. Potentiellement. Non pas pour aller chercher du business, mais pour aller chercher des salariés futurs. Bon, mais c'est vrai qu'on peut pas tout faire bien et il faut choisir. Je suis tout à fait d'accord.
Ou alors, après,
il
faut vraiment embaucher une personne qui ne gère que ça et qui se diversifie dans différents réseaux sociaux. Mmh. Mais la problématique est toujours la même. Hein. Si cette personne venait à partir, il y a un moment, il faut être capable aussi de reprendre toutes ses tâches.
Ouais, et puis c'est dur parce qu'on terminera là-dessus, mais... ce qui est important, et c'est d'ailleurs ce que j'aime dans votre communication aussi, c'est l'authenticité, tu vois. Et alors, c'est un biais et quelque chose que j'ai pas réussi à surmonter, mais j'ai l'impression qu'on ne peut être authentique que quand tu prends réellement en charge la com et que tu le fais toi-même. C'est-à-dire que tu racontes ton histoire avec tes mots, avec ton phrasé, ton dialecte, ton attitude derrière la caméra si tu fais de la vidéo. Et c'est vrai que sous-traiter ça à quelqu'un d'autre, même si la personne va être très compétente, va savoir le faire et tout, je ne sais pas si elle va réussir à retranscrire avec autant d'authenticité. Enfin, c'est...
Alors, on a eu justement la discussion, parce qu'on l'a assez régulièrement avec mon mari, Jackie, et on se disait, ce serait bien qu'on recrute une personne sur ce secteur-là pour me libérer du temps, parce qu'à côté, moi, je gère tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est lié au social. Donc, j'ai très peu de temps sur la communication. Et après, on s'est dit, c'est compliqué, parce que très souvent, moi, je suis au bureau, je fais ma compta, et d'un seul coup, j'entends le... Pardon ?
T'as une idée qui arrive ?
J'ai une idée. Ouais. Ou alors, j'entends le pâtissier. Ah, cette nouvelle tarte est sortie, je l'amène au magasin. Oh, hop, je me lève, je prends la photo et c'est en direct. Et quelqu'un qu'on va forcément payer, qui sera externe à ça, on ne peut pas lui dire, c'est maintenant. Mmh. Tu viens, tu fais ta photo, tu fais ton texte. Et les textes, c'est vrai qu'ils sont propres à nous. Souvent, ils sont un peu décalés, qui nous ressemblent totalement.
Ouais.
Chose qu'on ne retrouvera peut-être pas sur une personne qu'on recrute et qui doit gérer ça et qui le fera certes très bien, mais qui ouais, qui aura peut-être pas la fibre comme ce que nous, on peut faire.
Je suis entièrement aligné avec ce que tu dis. Et il y a deux mots, c'est vrai, c'est authenticité, j'en parlais tout à l'heure, et spontanéité.
Complètement.
Parce que la difficulté aussi, c'est ce qu'on dit à chaque fois sur les réseaux sociaux, il faut publier régulièrement, réfléchir à quel moment tu publies, machin. Et tu vois, ça, ça va pas de pair avec la spontanéité. La spontanéité, c'est « Ah bah tiens, j'ai une idée, j'ai ça, hein, paf, on y va, quoi. » Et c'est ça où j'ai du mal à rendre la chose compatible avec...
Ah, il y a la spontanéité, mais il y a aussi des choses... Enfin, nous, sur certaines publications, il y a des choses programmées.
Oui.
On a les deux.
Oui.
On sait qu'à
oui.
telle date, il y aura ça, donc on programme et voilà. Mais souvent, il y a de la spontanéité.
Entre guillemets, l'idée arrive à un instant T... spontanément tu vas aller tout de suite mettre en pratique parce que t'as le déclic, tu vas, et par contre tu te dis non mais attends, en fait cette idée elle est très très bien, mais par contre je crée le contenu et je me le garde sous le coude pour plus tard.
Complètement.
Ouais, c'est exactement ça. Ok, cool. Donc alors toujours pas la casquette de pâtissière pour toi, mais on a plein de plein de casquettes.
Même si c'est moi qui fais les gâteaux à la maison.
C'est vrai.
Ouais.
Bien. Une casquette également de comptable. Je vais pas, rassure-toi, je vais pas trop te triturer sur la compta. On est certes sur le podcast.
Je suis incollable.
C'est vrai. On est sur le podcast avec ton comptable, mais comme vous l'aurez compris, on n'est pas des acharnés de la fiscalité ou de la compta, même si on y reviendra un petit peu dans un deuxième temps. Non, l'aspect sur lequel la partie sur laquelle je voulais t'emmener un petit peu, on en a parlé tout à l'heure, c'est les RH. Les RH, c'est toi qui t'en occupes aussi un petit peu, apparemment. Peut-être pas toute seule, mais tu vas nous raconter tout ça. Question en introduction sur ce sujet RH, c'est la pénurie chez vous aussi en termes de main d'œuvre, vous y arrivez? Comment
pas
vous
du tout. On n'est pas du tout logé à la même enseigne que tout le monde. Si, bien sûr. On est, ça reste compliqué, mais comme toute entreprise. Alors, ce qui est rassurant, c'est que c'est pas lié à notre entreprise. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est lié à tout le monde. Compliqué de recruter. Alors après, c'est vrai que jusque-là, on avait des locaux très exigus. Donc, quand on recevait des candidats, notamment en production, ils se voyaient pas travailler chez nous parce que c'était vraiment très petit.
Ah ouais, l'outil de travail était pas sexy avant.
Mais on le savait. On le savait. Il fallait qu'on trouve des solutions. Solutions trouvées et travaux réalisés en octobre l'année dernière. Donc, on a repris l'appartement qui est au-dessus de la boulangerie, qu'on a transformé en local de production.
Ah, vous avez récupéré l'appart du dessus?
Oui.
Je crois qu'il y avait des magnifiques locataires au-dessus.
Oui.
Les locaux seront. Une fois, j'étais en train de faire la queue et puis je voyais des mecs qui étaient au-dessus. Je dis, putain, qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est la Bérénzina.
Ah, ils ont toujours été très conciliants, sympas. Après, nous, on savait que le jour où ils allaient partir, fallait
dégainer.
Ouais. On avait déjà prévenu le propriétaire qui n'était pas fermé à l'idée de transformer cette habitation en local de production. Après, forcément, il y a des démarches auprès de la mairie à faire.
Ouais.
Parce que ça fait un logement de moins.
C'est ce que j'allais vous dire. Hein, même si architecturalement et puis... avec un œil extérieur, tu te dis bah oui, c'est logique, c'est facile et il faut le faire. Réglementairement parlant, c'est pas la même.
Réglementairement parlant, et puis même ça engage de gros travaux.
Ouais.
Qui dit monte charge. Enfin voilà, on a eu un mois de travaux intenses et maintenant tout le monde est dans un environnement, un local très très bien, grand confort de travail. Donc on reviendrait certainement pas en arrière. Donc je pense que ça serait plus facile de recruter. Pour le moment, notre équipe est en place. Donc
vous avez combien de boulangers, pâtissiers diplômés à la prod?
Ah ben ils sont tous diplômés de toute façon.
Ouais.
On est à peu près 23. En nous comptant, nous, avec Jackie, mon mari,
ouais.
On est 23 et c'est divisé en deux, donc moitié boulanger-pâtissier, moitié vendeuse.
D'accord.
Parce qu'on a le point de vente, donc la boulangerie, et aussi sur le marché Arago qui est
oui.
juste à côté de la boulangerie.
Oui, ouais. On voit le petit chariot qui transfère de la boulangerie jusqu'à Arago pour les matières premières. Enfin, les matières premières, les produits finis, autant pour moi. Comment... Parce que... Moi, forcément, je vois pas les mecs et les nanas qui sont en train de produire derrière. Je maîtrise pas trop tout ça. Moi, je vois juste les vendeuses en tant que bon client. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un turnover de fou. Alors, forcément, il y en a un petit peu parce que c'est normal. Et vu l'âge d'ailleurs des vendeuses, je vois qu'il y a une équipe assez jeune quand même. Enfin, il y a tout comme, mais je trouvais que c'était assez jeune. Comment tu... Alors, t'es pas mal placé, mais je te pose quand même la question. Comment tu juges le turnover chez toi? Comment tu le gères? Est-ce qu'il est différent de la profession? Est-ce que tu arrives à fidéliser? Comment vous faites pour fidéliser? Pardon, plein de questions.
Ouais,
en une,
plein de questions. Alors, juste là, ça fait un an où on a notre équipe stable.
Ouais.
Auparavant, alors, est-ce que c'est lié au Covid ou pas, beaucoup de turnover sur la vente. Mais ce qui n'est pas surprenant non plus, dans le sens où vendeuse en boulangerie, ce n'est pas forcément une vocation pour les personnes qui postulent. C'est plus un souhait, un métier pour payer son loyer, sa nourriture, voilà. Et le but, c'est de les... Une fois qu'elles sont là, alors je dis elles parce que c'est essentiellement féminin, une fois qu'elles sont là, qu'on les garde. Et là, on est sur une équipe qui s'entend très bien, alors assez jeune quand même, mais nous, notre souhait, c'est qu'il y ait vraiment tous les âges. Parce qu'un jeune, c'est très bien, une personne plus âgée, c'est très bien aussi, mais on peut s'apporter tous des compétences différentes. Donc on a tous les âges, ça va de du petit jeune qui vient le week-end pour aider, qui a 17 ans, à la personne qui est en pré-retraite à 60 ans. Donc voilà, donc là pour l'instant, on n'a pas trop de turnover, on croise les doigts pour que ça se maintienne. En production, pas trop de turnover, difficile de recruter dans le métier. Parce que souvent, en fait, les personnes qui sont dans le métier arrivées à l'âge, dans nos âges, 35-40 ans, c'est soit on s'installe, soit on quitte le métier, on fait totalement autre chose. Parce que c'est vrai que c'est un métier quand même très contraignant, physique. En plus, on est au Sable d'Olonne, donc saisonnier.
J'allais te demander, justement, il y a une forte saisonnalité sur votre activité quand
Sur le quartier Arago, oui.
Ouais, bah oui.
Alors, peut-être pas sur les autres boulangeries des Sables, mais quartier Arago, si. L'été, c'est vraiment 2 mois très intenses. Et d'ailleurs, on est assez content quand ça se termine.
Ouais. Vous faites 40% de votre chiffre sur juin, juillet, août.
Ah, est-ce que je peux dire 40% oui, on va dire ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, sur les activités saisonnières, l'ultra saisonnier, c'est juillet-août, 60-70% du chiffre. Sur le saisonnier, c'est les ratios que je viens de te donner. Et puis après, t'as ceux qui sont moins impactés, en effet.
Après, on reste au Sable d'Olonne, ça reste une ville dynamique toute l'année. Donc, on travaille très bien toute l'année, mais on a des pics sur les vacances scolaires et vacances d'été.
C'est là où... je sais pas comment dire ça sans te vexer. Enfin, c'est pas de vexer, mais non. Mais c'est là où on voit que vous avez une belle affaire, c'est-à-dire que il y a certes, vous bénéficiez de tout le flux saisonnier et on voit un afflux l'été en effet de dingue. Et tu viens de le dire en disant quand on arrive fin août, on tire un peu la langue. Mais d'un autre côté, tu viens le dimanche en saison creuse chez vous, c'est blindé aussi, quoi.
Oui.
Parce que vous avez réussi aussi à attirer les locaux et à fidéliser les locaux sur un quartier, quartier Arago, qui est aussi un quartier avec du pouvoir d'achat, avec des gens qui aiment bien manger. Et donc, vous tirez sur les deux côtés, quoi. C'est une bonne chose.
Le but, que ce soit une personne à l'année ou une personne saisonnière, c'est de faire plaisir aux clients. C'est notre but premier. Qu'il soit content des produits qu'on lui propose, qu'il soit hyper bien accueilli au sein de la boulangerie, parce que c'est un de notre priorité. La priorité client, c'est quelque chose de très important. Et là, j'ai une équipe en vente qui gère très bien, qui est très agréable avec le client, très souriante. Elles sont toutes très souriantes et qui connaissent aussi les clients, les habitudes des clients. Et ça, mine de rien, c'est fidéliser le client et ils sont contents de voir qu'on les reconnaît, qu'on reconnaît leurs petits-enfants, donc c'est chouette.
Ouais. Et moi, je parle souvent du business de la nostalgie. Alors, on n'y est pas tout à fait, mais on le touche avec vous sur deux aspects. Déjà, on en a parlé tout à l'heure, le nom. T'as un petit côté nostalgique quand même chez Lucette. Et puis, cette histoire de « je reconnais mes clients, je connais leurs habitudes », là aussi, on est dans la nostalgie et un peu l'ancien temps qui se perd de plus en plus, où dans les grandes villes, tout est impersonnel, les gens se connaissent pas, se parlent pas et tout. Elle a dit, madame machin, bon, 2 éclairs et 1 au café, 1 au chocolat, comme d'habitude. Et ça, c'est vrai qu'en termes de satisfaction client, c'est inestimable.
C'est hyper appréciable.
Ouais.
Hyper appréciable. Et je les remercie de faire ça, parce que moi, je suis pas très physionomiste et j'ai beaucoup de mal à retenir les habitudes de tout le monde.
Ouais.
Donc, qu'elles le fassent sans que je puisse les former, parce que je suis pas forte sur ce domaine-là, je trouve ça juste génial.
Au niveau du recrutement, justement, comment qui s'en occupe et comment vous faites pour déceler justement ces qualités qui sont indispensables pour vous ?
Alors, recrutement est fait uniquement par nous. Alors, moi, je gère la partie vente. Jackie gère la partie production. Donc, on a chacun notre domaine. En général, on met une offre sur Pôle emploi, Indeed. Et puis ensuite, en fonction de... Enfin, on reçoit les candidats qu'on souhaite voir suite au CV reçu. Et puis, ça se fait beaucoup. Alors, sur la production, ça va être l'expérience, les formations qui vont jouer. Sur la vente, Clairement, il y en a très peu qui ont des CAP vente, bac pro vente. Ça joue vraiment au feeling. Mmh. Moi, je pars du principe où quand on est agréable, ouvert, souriant, bah, derrière, tout s'apprend en vente. Mmh. Donc, c'est vraiment du feeling.
Ok, intéressant. Et comment vous faites pour entre guillemets, parce que on va pas se mentir, la place, les candidats sont un peu en position de force. Et quelqu'un qui veut, alors c'est pas forcément une vocation comme tu le disais, mais qui veut être vendeuse en boulangerie, globalement elle va trouver du taf, quoi.
Complètement.
Voilà. Et donc c'est elle qui va choisir la boulangerie où elle va aller travailler. On est d'accord?
Ah ben oui, bien sûr.
Alors comment vous faites pour vous survendre?
Alors, c'est pas vraiment nous qui nous survendons.
J'ai utilisé le terme volontairement parce qu'il n'est pas approprié et je voulais t'embêter.
C'est surtout les autres personnes qui sont déjà passées dans l'équipe, qui sont déjà passées chez nous, ouais, qui sont allées voir ailleurs, qui ont dit bah, là-bas c'est bien, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Enfin, l'ambiance joue vraiment beaucoup. Mmh. Ils s'entendent tous bien. Nous, on fait en sorte de rassembler en fait l'équipe à minima deux fois par an. Une début juillet, on se fait une petite sortie plage avec pizza, enfin vite fait, histoire qu'on apprenne tous à se connaître, parce que les saisonniers qui arrivent, ils sont direct dans le jus. Mmh.
Il n'y a pas de round d'observation, là, pour eux.
Oui, voilà. Ouais. Donc là, au moins, tout le monde peut apprendre à se connaître autour de cette petite soirée qui est très sympa. Et en fin de saison, on fait un petit resto-activité avec tout le monde, saisonnier compris, pour remercier toute l'équipe, parce qu'après une saison, c'est quand même très intense, donc faut remercier tout le monde de l'implication. Et puis, ce qui nous rassure aussi, c'est que les saisonniers reviennent d'une année sur l'autre. Mmh. Donc, ça veut dire qu'ils s'y sentent bien. Et en général, ils ne font pas qu'une saison, ils en font deux, trois. Et redemande, quatre. Donc, c'est chouette. C'est des personnes qu'on n'a pas formées qui sont opérationnelles tout de suite. Et puis, sur les personnes à l'année, donc on en a déjà de mémoire 3-4 qui sont parties de l'entreprise, que besoin de voir ailleurs, et ce qui est légitime. Hein, ouais. On a besoin de se tester, de se confronter à d'autres entreprises, bah, qui sont revenues chez nous et qui nous ont dit...
Quelle meilleure preuve.
Oui,
ouais. Ouais, ouais, ouais.
Après,
Même pour tout le monde, en fait, ce qu'il faut, c'est... Je pense pas avoir l'attitude, tu vois, que certains pourraient avoir et dire « Ah bah tu vois, t'as vu, je te l'avais dit, hein, que je te l'avais dit, hein, t'es bien content de revenir, hein, machin, et tu vas me venir me manger dans la main. » Non, c'est pas l'idée. C'est... En effet, tu ne peux comparer qu'à partir du moment où t'as des points de comparaison. Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'au cabinet, la chance et la malchance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui, pour la plupart, n'ont jamais connu ailleurs comment ça se passe. Et donc je dis « Il y a du bien et du moins bien chez nous. » Mais en fait, comment peux-tu juger, comparer, si jamais tu sais pas comment ça se passe ailleurs?
Et
pas
bien.
Forcément à un autre endroit ailleurs, mais à deux, trois autres endroits ailleurs. Et en effet, quand tu as 3-4 points de comparaison, tu peux, en pleine connaissance de cause, dire « Bon, ben voilà, en effet, à ce premier endroit, c'était pas si mal pour telle et telle raison, quoi. »
Complètement. Après, forcément, on n'est pas parfait. Et comme toute entreprise, il y a des choses à revoir.
Et d'un autre côté, les personnes qui sont allées voir ailleurs ont été prendre ailleurs... Et apprendre ailleurs, ce qu'il y avait d'intéressant, parce que même à des endroits pas top, il y a des bonnes choses à apprendre. Et donc, ils reviennent chez toi derrière en disant « Bon, voilà, là-bas, c'était pourri sur tel et tel. Hein. Par contre, j'ai appris ça et ça, c'est incroyable, il faut qu'on le mette en place. »
Ouais, c'est vrai. Donc, c'est une belle reconnaissance, en tout cas, de la part de notre équipe quand ils reviennent et qu'ils souhaitent se réinvestir auprès de nous, en tout cas.
Super, je vois le temps passer et il y a plein de points sur lesquels je veux encore t'emmener. On va essayer de ne pas perdre nos auditeurs et pas te faire perdre ta matinée. Au niveau de la gestion de la boulangerie, vous avez des coûts de matières premières et des charges externes qui, comme beaucoup d'autres entreprises, augmentent. Est-ce que vous avez été impacté par la hausse des coûts énergétiques? Comment vous avez traversé cette pseudo-crise et comment vous pilotez ça?
Alors, on a été très impacté par bon nombre d'augmentations dans notre métier. Ouais. Alors, c'est vrai que celui qui fait beaucoup parler, c'est l'électricité, mais nous, on a été impacté par le beurre, la farine, les œufs, enfin, des choses qu'on utilise au quotidien et en quantité importante. Donc, on a essayé de maintenir les prix comme on pouvait, compliqué. Très compliqué, parce qu'on a grignoté sur notre marge et il y a un moment, on n'a pas eu d'autre choix que d'impacter le
de
prix.
De répercuter, ouais.
Ouais. Et puis, il y a ça, mais il y a aussi l'augmentation des salaires qui est rentrée en ligne de compte aussi. Donc, tout ça fait que, il y a un moment, même si on veut faire plaisir à tout le monde, on n'a pas d'autre choix que d'augmenter nos prix de vente de produits. Donc voilà, pour l'électricité, alors, On a eu une grosse augmentation, mais grâce à la Fédération de la boulangerie, ils ont mis en place un contrat énergétique négocié. Donc,
ouais, un contrat groupe.
Donc on a eu une augmentation, mais pas aussi importante que d'autres métiers ont pu avoir.
D'accord. Ouais. La Fédération de la boulangerie, c'est une fédération qui est puissante, qui vous accompagne bien. On n'est pas là pour faire de la politique, mais dis-nous un petit peu quelle relation vous avez avec eux.
Alors, elle est disponible pour pas mal de choses, notamment sur tout ce qui est juridique, social. Dès qu'on a une question, il y a une personne qui travaille là-bas, qui se renseigne et qui nous tient informés. Ouais. Même si on a notre cabinet comptable qui peut nous renseigner aussi. Parfois, c'est bien d'avoir les deux éléments et puis de joindre tout ça. Elle est là aussi pour organiser des concours sur des produits, notamment les galettes des rois.
Ah, c'est eux qui font ça, je savais pas, d'accord. Okay.
Donc ils mettent en place ça, chaque boulanger participe ou non à ce concours, c'est pas une obligation. Alors nous, on est très dans le challenge, donc on y participe à chaque fois.
Ouais.
ce qui nous a valu quand même quelques prix, notamment sur les galettes, aussi sur les croissants et la baguette tradition. La semaine prochaine, c'est le concours sur les croissants, pain au chocolat et baguette tradition. Donc,
okay.
On verra le verdict, mais les essais sont en train d'être faits. Voilà. Sinon, la Fédé, qu'est-ce qu'elle nous apporte de plus? Bah, elle nous accompagne au quotidien, en fait. Dès lors qu'on a une question, même sur l'installation, si on a des doutes sur des mails reçus, des mails frauduleux, enfin, il y a toute une communication, un accompagnement par rapport à notre gestion au quotidien.
D'accord, ouais, donc c'est vraiment un interlocuteur au quotidien sur les problématiques diverses et variées liées à la gestion de votre boulangerie, quoi.
Complètement.
Ok.
Et puis, elle nous apporte aussi des compléments d'informations, notamment sur tout ce qui était contrat électrique, toute la gestion du Covid.
C'est intéressant parce que c'est une fédération, donc ça n'a rien à voir avec le centre de gestion des boulangers à La Roche, c'est encore autre chose. Le CGB2A, là.
Si.
Si, c'est eux. Ok, c'est la même chose. Ouais. D'accord. Ok, je comprends mieux. J'avais pas notion que c'était eux qui géraient les concours galettes et compagnie, quoi. Comme le comité Miss France organise le concours Miss France.
Ah, ben on finit avec une couronne, pareil. Hein.
Ouais. Très bonne répartie. Question marge, matière première et tout ça. Sans rentrer dans le détail technique, parce que ça présente peu d'intérêt et tout ça, mais. En termes de gestion, par contre, est-ce que vous faites un pilotage un petit peu de la marge par typologie de produit? Est-ce que vous faites des analyses, je veux dire, par exemple, sur la galette des rois, qui est réputée pour être un produit sur lequel il y a de la marge? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que vous pilotez par type de produit la marge?
Alors, pour chaque type de produit, on fait un prix de revient.
Oui.
C'est hyper important pour nous pour savoir à quel prix on peut le vendre au magasin. Alors, sur certains produits, on a moins de marge que d'autres. Alors, la galette des rois, oui, il y a une marge, mais en attendant, on n'utilise que des matières premières nobles, donc qui ont un coût important. Donc, je pense que dans l'idée des gens, on se fait une grosse marge, alors que pas forcément.
Ni plus ni moins que d'autres produits.
Non. Donc, c'est plus,
tu viens de le rappeler, en fait, la problématique de la galette des rois, si je puis me permettre, c'est en fait la valeur absolue du produit à la fin. C'est-à-dire que tu te retrouves avec une part de galette des rois qui peut facilement approcher les 3 euros ou un truc du genre.
En prix de vente.
Ouais, en prix de vente, pardon. Et autant, je me dis, tu vois, 3-4 euros pour un beau gâteau bien dessiné, bien travaillé, machin. Pourquoi pas? Autant une part de galette des rois à 3 euros. Alors, ce n'est que moi et ça n'engage que moi. Et tu te dis, oh putain, ils se font plaisir, quoi. Alors, c'est pas forcément vrai à cause du coût des matières premières sous-jacentes.
Ouais, sur la galette des rois, on est quand même sur un feuilletage où on utilise beaucoup de beurre.
Ouais, et en plus, je suis mal placé pour dire ça parce que je suis pas un grand fan de la galette des rois, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que je suis parti pris, tu vois. Ma femme, elle me dit à chaque fois, ah, il y a la période des galettes des rois qui arrive, trop bien avant moi. Je dis, ouais, super, je suis pas fan.
Ben, faut goûter les nôtres.
Ouais.
Donc, non, mais il y a le feuilletage avec le beurre de qualité, et il y a beaucoup de beurre dans le feuilletage, il y a de la pâte d'amande, donc ça aussi c'est excessivement cher. Donc même s'il y a peu de matière, enfin de produits, j'ai envie de dire, ça reste un produit quand même avec une forte valeur.
Et est-ce que dans votre prix de revient justement, vous intégrez un petit peu la main-d'œuvre ou pas? Non, dans votre calcul, là,
vous...
Oui. Non, parce que pour... parce que toi,
ah non, dans le prix de revient, non. Ouais. C'est que la matière première.
Voilà.
Et après, on applique un coefficient multiplicateur qui englobe justement toutes les charges donc, de personnel, les charges diverses, électricité.
Mais ce coefficient multiplicateur, il est le même pour tous vos produits?
Non.
Non, on est bien d'accord. Non. Parce qu'en effet, il y a des produits qui sont ultra faciles à faire. N'importe quoi. La pétrichoc, ça doit pas être très compliqué à faire.
C'est une base de pâte à pain avec des pépites voilà. de chocolat.
À l'inverse, le feuilletage et tout ça que tu rappelais pour la galette des rois, ça prend plus de temps à l'artisan boulanger pour le faire. Et donc, le coefficient multiplicateur que vous allez appliquer pour votre prix de revient ne peut pas, ne doit pas être le même.
Complètement.
Ok, cool.
Et d'ailleurs, pour revenir sur le prix de revient, alors on fait un petit jeu en interne auprès de toute l'équipe. On met en place tous les ans un petit jeu, comment on appelle ça ? On l'appelle le challenge entreprise. En fait, on crée un binôme vendeuse et production.
Ouais.
Et ce binôme-là doit, sur une semaine, proposer un produit qui est totalement différent de ce qu'on a pu faire auparavant. Alors, le proposer au bon prix, donc il faut calculer le prix de revient, il faut faire toute la communication et il faut faire en sorte que toute l'équipe vende ce produit-là. Et donc, il y a un challenge qui se met en place comme ça sur plusieurs semaines et sont évaluées toutes ces caractéristiques-là. Alors, prix de revient, c'est hyper important parce que tout le monde a envie de faire des pâtisseries oui, ou des la viennoiserie de fou. Sauf que quand ils calculent le prix de revient, c'est trop cher. Donc, ça leur permet de voir aussi ce côté que nous, on gère, que eux n'ont pas, et ça les implique notamment dans ce système-là qui est important quand même.
Je te laissais justement dérouler ton flux pour voir si tu allais sortir le terme que j'attendais. À mon sens, ça responsabilise les équipes. Parce qu'en effet, on peut se faire plaisir, être passionné, machin, mais il ne faut pas se mentir, derrière, il y a une réalité économique, quoi. Et tu ne peux pas faire la meilleure galette des rois, par exemple, pour en revenir à ça, de la place pour 5 euros. C'est juste économiquement pas possible, quoi, en fait, de par le temps qui a passé, de par les matières premières. Et donc, c'est vrai que tu peux avoir les plus beaux projets, même en architecture immobilière, c'est la même chose en immobilier. C'est-à-dire que tu peux faire le meilleur des bâtiments possible, le truc le plus beau possible, avec un prix de revient à 3 millions, à un emplacement qui n'est pas adéquat. Et eh ben ça se vendra pas parce qu'il y a pas de marché, ça le fait pas. Et t'es complètement déconnecté de la réalité économique. Il faut à la fois un bon produit, mais qui soit bien placé dans la réalité économique et du pouvoir d'achat des gens en face, quoi.
Complètement.
C'est une très très bonne idée et qui à mon avis est réplicable dans beaucoup d'autres secteurs d'activité.
Alors, le but premier de ce challenge entreprise, c'était pas de les confronter à tout ça, c'était de faire en sorte, parce qu'au début, en fait, toute l'équipe vente s'entendait très bien, toute l'équipe production s'entendait très bien,
mais ouais, rejoindre les deux mondes.
Très peu de connexions. Très peu. Alors, pourtant qu'on était proches dans nos petits locaux exigus, le but, c'était vraiment qu'ils apprennent à se connaître et à travailler ensemble. Et c'était notre but premier. Et puis, ils se sont engagés là-dedans avec une ferveur importante. Donc, c'est chouette.
C'est super. Ça fait totalement sens. Et ça me fait penser à un truc pour nous, les cabinets d'expertise comptable. C'est qu'on a toujours une équipe, un service social, tu vois, ceux qui font les bulletins de paie et tout ça, qui sont toujours historiquement, alors chez nous comme ailleurs, un petit peu, alors déconnecté, le terme est beaucoup trop fort et pas adéquat, mais ils sont un peu...
En retrait.
Ils sont dans leur département service social, tu vois. Et la difficulté qu'on a toujours, c'est justement de faire rejoindre ces deux mondes, le cabinet à proprement parler et le service social. Et il faudrait trouver justement une idée telle que celle que tu viens de citer pour inciter nos équipes. On voulait des fois d'ailleurs... faire le challenge prends mon job ou change de job, c'est-à-dire que les filles du social vont pendant une demi-journée ou une journée faire du bilan et vice-versa, quoi.
On a voulu le faire nous aussi à plusieurs reprises, sauf qu'à mettre en place, c'est très compliqué. Alors, du fait que nous, en fait, on est ouvert toute l'année, tous les jours, et qu'à un moment, l'équipe prend des vacances. Et quand elle prend des vacances, c'est les périodes où c'est un peu plus creux. Et quand c'est un peu plus creux, c'est là où on aurait pu faire vie ma vie de. Sauf c'est que ça. Bah, il manque déjà du monde, donc c'est très compliqué à mettre en place. Nous, on n'a jamais réussi. Mais ça serait chouette.
On arrive, pas à la fin de l'épisode, parce que c'est moi qui décide quand on arrête l'épisode. Et il m'est arrivé des fois de prolonger. Et je pense, si tu le veux bien et que tu n'as pas d'impératif, qu'on va prolonger un petit peu, parce que j'adore l'échange qu'on a. Allez, n'ayons pas peur des beaux, t'es une super invitée. Facile à manœuvrer. Enfin, je trouve que, bon, j'espère que ça se ressentira et que les gens apprécieront l'échange. Comme je t'avais dit en intro, il y a deux, trois sujets sur lesquels je veux t'emmener. Il y a cette histoire, donc vous êtes un commerce où on manipule beaucoup d'espèces, alors beaucoup moins qu'il y a 20, 30, 40 ans, mais il continue d'y avoir des espèces. Moi qui suis client régulier chez vous, j'ai vu arriver il y a quelques années, alors ça existe depuis de nombreuses années, mais des machines qui rendent automatiquement la monnaie. Moi, en tant qu'expert comptable qui accompagne beaucoup de commerçants qui donc justement sont amenés à avoir des recettes en espèces, c'est un sujet sur lequel on est un peu embêté, nous, en tant qu'expert comptable, parce que bah, le client, il gère son magasin comme il le gère et ça ne me regarde pas. Et puis, il y a toujours cette défiance de est-ce qu'il fait du black, est-ce qu'il n'en fait pas, est-ce qu'il se fait voler, est-ce que voilà, hein. Et c'est vrai que, alors, je ne sais pas quand sont arrivées, pas chez toi, mais sur le marché, ces machines qui rendent la monnaie automatiquement. C'est quelque chose qu'on a vu arriver il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années, un truc du genre, 10-15 ans.
Ah, je ne pourrais pas dire quand exactement, mais de toute façon, la province, c'est toujours un peu après toutes les grandes villes. Donc, ouais. Je pense que ça existe depuis de nombreuses années sur Paris et la région parisienne.
Et pour autant, en fait, il n'y en a pas partout. Alors, j'imagine qu'il y a non seulement un coût de mise en place, et c'est toujours ce ratio combien ça me coûte à mettre en place et combien ça me fait économiser ou pas perdre, enfin tu vois ce que je veux dire. Et puis et puis à l'inverse, pour celui, alors allez, on est entre nous, personne n'écoute, hein, mais pour celui, enfin d'ailleurs tu me diras ou pas, mais pour celui qui se dit non mais moi j'aime bien l'ancienne parce que ça me permet de piloter ma caisse, hein, je vous fais pas de dessin, et ben forcément il va pas aller mettre en place ce genre de choses. Bon, sans faire de polémique ou quoi, moi, le conseil, j'attire l'attention de mes clients là-dessus. La problématique, c'est qu'à partir du moment où tu as des salariés qui sont amenés à manipuler beaucoup d'espèces, il peut forcément, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il y aura forcément à un moment dans ta carrière des erreurs et ou du vol. Forcément. En fait, c'est statistique, quoi. Et c'est ce que je dis à mes clients sans justement vouloir les victimiser ou leur faire peur ou les culpabiliser. Je leur dis, c'est pas lié à vous, c'est lié à la nature humaine et aux statistiques. C'est-à-dire, vous pouvez être bon, très bon, moyen, mauvais. Statistiquement, ça arrivera. Et donc, en fait, à vous de voir si vous souhaitez courir le risque, plus ou moins important. Et voilà, derrière, est-ce que vous mettez en place ou pas ces solutions pour éviter les problèmes ? Voilà, j'ai posé le sujet sur la table. Qu'est-ce que tu nous en dis de ces machines qui rendent la monnaie automatiquement ?
Alors, nous, on a commencé sans les machines, ouais, en 2017. Et nos associés, monsieur et madame Veillé, ont tartiné gourmandise à La Roche et ils avaient mis en place ces... Alors, on appelle ça des monnayeurs.
Ouais. Oui, je...
Ils en étaient contents. L'idée a mûri un petit peu et 3-4 ans après notre ouverture, on s'est dit, allez, on se lance dans cette aventure. Après, on s'est beaucoup renseigné sur ces monnayeurs, comment ça fonctionnait, quels étaient le coût, parce que c'est un coût, ouais, énorme quand même. Ouais. Tous avaient le même discours en disant que de toute façon, grâce aux monnayeurs, pas d'erreur de rendu monnaie, parce que c'est vrai que maintenant, alors je veux pas mettre tous les jeunes dans la même situation, mais très peu savent rendre la monnaie.
Le message est passé, c'est bon.
Donc, très peu savent rendre la monnaie. Donc,
et pire s'il y a la pointe.
Voilà, alors là, ça perturbe tout le monde. Donc là, il n'y a pas d'erreur de rendu monnaie, il n'y a pas d'éventuel vol, même si, en toute honnêteté, on n'a jamais eu de cas. Peut-être que c'est arrivé. Il y a eu des moments où il y avait des erreurs de caisse. Mais est-ce que c'est des erreurs de caisse ? Est-ce que c'est des vols ? On ne sait pas. Là, au moins, il n'y a pas ça. Les caisses sont justes. C'est moins de temps derrière à gérer. Parce qu'avant, les caisses, c'était tous les jours. Fallait compter. Fallait être sûr que le fond de caisse était bien fait. Là, il n'y a pas besoin. Ça fait ça de moins à faire pour la personne qui ferme le magasin. Ça de moins à gérer le lendemain en termes de gestion de caisse. Et ce qui est bien, c'est que quand on veut retirer, en fait, tout l'argent des monnayeurs pour les mettre en banque.
Ouais, c'est déjà trié peut-être ?
Alors, c'est pas trié, mais ça sort un ticket avec il y a tant de billets de 5, 10, 20, il, ouais, y a tant de pièces.
Tu donnes à la banque et
on donne à la banque, c'est terminé. Et il n'y a pas d'erreur aussi avec la banque.
Avec la banque. Ouais.
Parce qu'avant de compter manuellement, bah, des fois on pouvait oublier un billet ou en mettre un en trop. Enfin, dans la précipitation, il y avait des erreurs. Là, il n'y en a pas. Donc, il y a des gains derrière énormes. Et moi, le plus gros impact important, c'est que ben maintenant, on ne touche plus la monnaie. La monnaie, ce n'est pas du tout hygiénique. Et dans notre métier, où on prend les produits... Alors, nos mains sont propres. On prend les produits avec les mains. Si après, il faut prendre les pièces billets, ce n'est pas du tout hygiénique. Ouais. Là, au moins, on scinde bien les deux choses. Alors, notre grande inquiétude quand on les a mises, c'est qu'on se disait, attention, monnayeur, ça sera moins rapide qu'une vendeuse. Alors, dans le sens
où... Ah oui, d'accord.
Nous, on a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'on encaissait le client même s'il n'était pas devant la caisse avant. Donc, c'est-à-dire qu'on l'encaissait, on lui rendait la monnaie et ensuite on tapait sur la caisse, qu'on n'a que deux caisses pour parfois 5-6 vendeuses. Là, on est obligé d'attendre que la caisse se libère, forcément, ça met plus de temps qu'une vendeuse, mais au final, on arrive au même nombre de clients qu'avant les monnayeurs, donc il n'y a pas trop de pertes, j'ai envie de dire.
Ouais, et c'est vrai que pour les vendeuses et les salariés, ou le salarié qui peut être un peu stressé ou pas à l'aise avec ça, c'est aussi un côté rassurant. C'est-à-dire que moi, déjà, des erreurs de calcul, comme tout ça arrive à tout le monde, ben, il n'y en a plus. Et puis, en fait, ça lève le doute aussi. C'est-à-dire que... il ne peut plus y avoir d'erreur, donc au moins, et d'ailleurs avant que l'erreur soit faite par la personne ou pour x ou y raison, ou ça peut avoir un doute justement, là il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. Et moi, il y a une question que je ne pose plus en entretien, c'est « savez-vous rendre la monnaie ?»
Ouais.
Sauf que quand les monnayeurs bug,
ouais.
Et c'est arrivé cet été où vraiment, il ne fonctionnait pas du tout. Et on ressort la caisse classique. Waouh.
Ouais.
Là, c'est compliqué. Il faut la calculatrice.
Ouais, et puis le process est chamboulé. Et là, c'est un peu bordel. Ouais.
Mais non, c'est très bien et on ne reviendra pas en arrière.
Ça marche. OK, pour ce point-là. Est-ce que... j'avais deux, trois autres questions encore. Est-ce que vous avez une spécialisation ou un truc qui vous démarque? Est-ce que là, cette notion de spécialisation, elle existe en boulangerie ou pas? Parce que enfin, je fais toujours
en
le
terme de produit.
Ouais, ouais. Parce que nous, dans nos métiers, en fait, on parle tout le temps de l'expert comptable généraliste. C'est vrai que la tendance, comme dans d'autres, est beaucoup à la spécialisation, en disant on vient spécialiste de ce secteur d'activité, ou etc. Est-ce que chez vous, justement, ça existe ça, ou toutes les boulangeries restent relativement généralistes
Bon, une boulangerie-pâtisserie, ça reste généraliste. Après, moi, j'ai envie de dire, Lucette, c'est... du pain, des gâteaux,
ouais.
Du bonheur.
Ouais.
Non, notre spécialisation, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui est gâteau de voyage, qui n'est pas forcément proposé en fait dans toutes les boulangeries. Alors, gâteau de voyage, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. C'est un gâteau qu'on peut prendre comme ça et manger sur le chemin. Donc, quelque chose de facile à manger. Donc, ça va être des cookies, des cannelés, phare breton. Enfin, voilà, toutes ces petites choses faciles à manger. Ça, c'est vraiment notre spécialité, avec la gâche brioche, ce qu'on est en Vendée, bien évidemment. Et ce qui fait la différence aussi par rapport aux autres boulangeries, parce qu'il y a de très bonnes boulangeries au SAM, mais ce qui fait la différence par rapport aux autres, c'est le fait que tout est fait maison, vraiment tout. Et on fait cuisson à la minute. Pour, de une, avoir toujours des produits le plus frais possible ou le plus chaud possible pour le pain et pour éviter tout ce qui est perte.
Ouais, ok. Grosse contrainte en termes d'organisation quand même, par contre. Cette cuisson à la minute.
Oui et non.
Non ?
Parce qu'en fait, il y a une réelle communication entre l'espace vente et l'espace production. Donc, dès lors qu'on voit qu'on va manquer, on est sur le point de manquer d'un certain produit... on en informe le boulanger, le pâtissier, et il y a toujours une réactivité. Et il y a des boulangers présents toute la journée, des pâtissiers présents toute la journée, ce qui nous permet justement de réajuster les stocks au fur et à mesure de la journée.
Ça marche. On est sur le podcast, t'as vu avec ton comptable, t'as vu avec ton expert comptable quand même. Il faut qu'on parle un peu d'expertise comptable et de mon métier, pas de notre cabinet, mais de notre profession. Toi, ton expert comptable... Alors, spoiler, tu n'es pas cliente du cabinet.
Et non.
C'est très bien. C'est d'ailleurs la petite remarque que tu m'as émise quand je t'avais envoyé un mot pour te proposer de passer sur le podcast. Tu m'as dit, mais je suis pas cliente du cabinet. Et je dis, alors, qu'est-ce que ça peut faire, quoi? Et à l'inverse, on a plusieurs... on balance le truc... et je vais au devant des critiques potentielles. On a plusieurs boulangeries en clients au cabinet. Et je me suis dit, putain, mais ça se trouve, en fait, quand il y en a qui vont entendre que c'est Lucette qui est passée et que c'est pas eux qui sont passés, ils vont tirer la gueule et tout. Et j'ai dit, bah, au moins, j'ai vu qu'on a plusieurs boulangeries et il aurait fallu choisir parmi les clients pour savoir
qui
passe.
Choix,
c'est très bien. Je suis allé voir quelqu'un d'autre qui n'était pas client du cabinet. Voilà, non, tout ça pour dire, donc, toi, ton expert comptable, comment tu l'as choisi? Comment tu définirais ton expert comptable ou ton cabinet expertise comptable? Qu'est-ce qui t'apporte? Parle-nous un petit peu de la relation avec ton expert comptable.
Alors, notre expert comptable, je peux le citer?
Bien sûr.
Symbiose Conseil, donc à La Roche, sur Yon. Ça a été une évidence dans le sens où on s'est associé à Monsieur et Madame Veillé, donc les boulangeries tartines et gourmandises, et ils étaient suivis par ce cabinet comptable depuis le départ. Donc, ils gèrent déjà plusieurs boulangeries, ils ont connaissance du métier, donc on ne s'est même pas posé la question. C'était une évidence pour nous de suivre ce processus-là. Notre cabinet comptable, donc quelqu'un très à l'écoute, qui nous conseille. On le sollicite de temps en temps par rapport à des questions, des doutes qu'on peut avoir. Et le but, c'est qu'il nous apporte noir sur blanc le pour, le contre, et après on prend la décision.
Et après vous décidez.
Ouais. Donc, voilà. Alors j'avais un peu peur de ce métier qui est très pour moi rigide, carré, et finalement notre comptable est très à l'écoute, très cool, et ça se passe très bien.
Ouais. Ouais, on doit continuer de se battre contre certains préjugés vis-à-vis de notre profession, tels que ceux que tu viens de citer. Et je te remercie justement de déconstruire un petit peu ces préjugés-là. C'est vrai que on fait un métier qui est certes sérieux, engageant, important, mais on peut le faire de manière flex, sympa et pédagogique, sans se prendre au sérieux. Et c'est un peu ce que vous faites aussi, vous, sans vous prendre au sérieux dans vos communications et tout ça. Nous aussi, moi, il m'arrive justement sur les réseaux sociaux de parler de sujets assez techniques en vulgarisant à fond et comme je dis à chaque fois, vulgarisant veut pas dire vulgaire ou nul, ça veut juste dire accessible et c'est ça que les gens aiment et ce qui fait qu'on arrive quand même à recruter et à attirer des gens, c'est que on fait un métier certes sérieux mais sans se prendre au sérieux quoi.
Après c'est très important d'un point de vue comptable de s'adapter à son client,
à son auditoire, ouais.
À son auditoire, parce qu'en fait il y a beaucoup de termes techniques et honnêtement un peu barbares quand même dans la comptabilité. Au tout début, je comprends rien de ce qu'il me dit. Et finalement en fait il s'est adapté, il a su trouver les mots, il a su trouver des exemples pour appuyer ce qu'il disait. Et du coup tout ce qu'il nous dit c'est clair. Après de le retranscrire. On en est incapable, mais on a compris.
C'est exactement ça. Il y a trois étapes dans la compréhension. Il y a j'ai compris, j'ai vraiment compris et je suis capable de le réexpliquer et je suis capable de le réexpliquer à d'autres personnes pour leur faire comprendre. Ça, c'est les trois étapes. Et c'est vrai que moi, là-dessus, ça, c'est vraiment une source de satisfaction quand je fais les débriefs de bilan, les entretiens de fin de bilan avec les clients. J'ai beaucoup de clients très régulièrement qui me disent « Putain, enfin, j'ai compris mon bilan. Enfin, j'ai compris ce que mon expert comptable me raconte. Et ça fait des années qu'on essaye de me l'expliquer et j'avais jamais capté tel que tu viens de me l'expliquer, quoi. Et ça, c'est le plus gros cadeau qu'on peut me faire à chaque fois de me dire, putain, j'ai enfin compris. Et c'est là où justement je dis, vas-y, réexplique-moi. Il dit, non. Je lui dis, ça sera l'année prochaine. Bah. L'année prochaine, l'étape d'après. Pour terminer, parce qu'on va quand même essayer de pas trop dépasser. On est sur un échange et un podcast qui permet justement aux gens de trouver de l'info, d'obtenir des conseils, etc. Est-ce que tu aurais des conseils justement, toi, pour les jeunes qui veulent se lancer en boulangerie ? Alors, j'avais noté deux phrases. Conseil pour le jeune qui veut se lancer dans le milieu de la boulangerie, dans ce cadre de ses études, de son projet professionnel. Et à l'inverse, conseil...
En tant qu'entrepreneur ?
Alors, non, justement, okay. Et ça embraye sur ma deuxième question. Conseil à destination du jeune boulanger qui est déjà dans le métier ou pâtissier et qui est déjà dans le cursus scolaire et ou professionnel et qui veut se lancer.
Ok, deux questions différentes. Ouais. Donc, on va commencer par le jeune qui est à l'école en train d'apprendre le métier. Alors, le conseil, c'est attention, parce que c'est vrai que tout est très réglementé en termes d'apprenti au niveau des horaires. Et souvent, ils arrivent pour 6h du matin, parce que c'est la réglementation qui veut ça. Et 6h du matin, il y a quand même pas mal de choses de faites avant qu'ils arrivent. Donc, ils se rendent pas compte de tout le processus du métier. Et surtout, quand ils arrivent en poste réellement, en CDD, en CDI, sur ce métier-là, et qu'il faut commencer plus tôt, des fois, c'est compliqué et il y en a beaucoup qui abandonnent derrière. Donc, il faut connaître les engagements et puis les implications derrière. Ouais. C'est vrai que c'est des horaires quand même de nuit. Même si on fait en sorte que ce soit de plus en plus tard dans la nuit, ça reste quand même des horaires de week-end aussi, même si on donne des week-ends de temps en temps. Mais il faut avoir cette connaissance de ce métier-là pour persévérer et continuer dans le métier.
C'est clair. Mais ça, c'est une problématique liée au droit du travail.
Complètement. Ouais, hein. Complètement. Et pour le jeune qui souhaite, le jeune ou moins jeune, qui souhaite s'installer à son compte dans une boulangerie-pâtisserie. Alors, moi, ce qui m'a le plus marqué à nos débuts, c'est que, après, je faisais aussi tout. J'étais en vente toute la journée, je gérais la compta, le social, l'administratif. Je trouvais que les journées étaient très longues, en fait, parce qu'on a une amplitude horaire dans le domaine de la boulangerie qui est énorme. Nous, on est ouvert 7 jours sur 7, plus gérer l'administratif, compta social, plus gérer la vie de famille. Il y a un moment, on est dépassé. Donc, il faut pas attendre le premier bilan, si les finances le permettent, d'embaucher pour se dégager du temps, se soulager sur certaines choses. Nous, c'était notre grand regret. On était toujours un cran de retard parce qu'on a voulu attendre notre premier bilan pour savoir si on pouvait embaucher. Et on aurait pu avant,
ouais.
Mais par sécurité, on s'est dit on attend pour être sûr, avoir le verdict de notre comptable. Même si lui nous disait ça le fait, on voulait avoir la preuve A plus B sur le document, le noir sur blanc,
ouais.
Comme quoi c'était possible. Moi, ça serait vraiment mon conseil. C'est un métier dur. Si vous avez possibilité d'embaucher, attendez pas.
Bah, c'est un super conseil. Merci à toi prodiguer ce conseil et de me faire me tendre la perche. Pourquoi ? Parce que en fait, attendre son bilan, oui, en effet, mais il y a une solution toute simple. Enfin, il y en a même deux qui s'appellent le tableau de bord et ou la situation intermédiaire. Alors, le tableau de bord, je reviens pas dessus parce qu'il y a beaucoup de nébuleuses au-dessus et on fera peut-être un jour un épisode dédié d'ailleurs à cette notion de tableau de bord. Mais là, la situation intermédiaire, très simple pour vous, c'est-à-dire que on contacte son expert comptable et puis on dit bon bah voilà, à horizon 6 mois ou 9 mois, je veux qu'on fasse une situation et un arrêté de compte, situation intermédiaire, pour voir exactement où j'en suis, quoi. Et la facilité que vous avez en plus, c'est que votre stock, globalement, il est assez facile à inventorier.
Oui.
Voilà. Donc, on se dit, au 30 septembre de l'année, sans vouloir attendre le 31 décembre, au 30 septembre, on fait un inventaire des stocks. Et si on a transmis l'inventaire des stocks à l'expert comptable, normalement, il a tout en main pour pouvoir faire justement un arrêté de compte au 30 septembre. Donc, ça va certes potentiellement coûter un petit billet d'expertise comptable parce que on va faire une situation intermédiaire, mais le jeu en vaut la chandelle si jamais derrière ça permet de prendre des décisions de manière avisée. Et en plus, on va pas se mentir, cette situation intermédiaire elle va pas être facturée hors de prix par l'expert comptable et tout le monde est gagnant parce que si jamais l'expert comptable il a fait une situation intermédiaire au 30 septembre qui cale bien la compta, ça veut dire que son travail au 31 décembre
il est mâché.
Il est pré-mâché, exactement. Donc tu vois, tout le monde est gagnant et c'est un conseil au-dessus de ton conseil. Enfin, okay. Quand je dis au-dessus, à côté de ton conseil pour justement ne pas attendre l'arrivée du premier bilan pour pouvoir prendre ses décisions. Bon super, il y a un dernier point sur lequel je voulais t'emmener. Alors spoiler pour Émilie qui écoutera l'épisode en avant-première et savoir s'il faut couper ou pas, parce que je sais pas si on a le droit d'en parler, mais si jamais on a le droit d'en parler, on coupera. C'est l'histoire de la meilleure boulangerie de France.
Parlons-en.
Alors j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un truc qui m'a interpellé et qui m'a excité. Pourquoi ? Parce que c'est toujours intéressant en fait de voir sa ville passer à la télé, ça fait toujours plaisir. Et j'ai cru comprendre que vous ainsi qu'une autre boulangerie du coin allez passer sur une émission télé assez connue qui met en avant des boulangeries. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement pour conclure ?
Alors, oui. Nous, on s'est toujours dit, parce qu'en fait, c'est M6 en démol qui démarche les boulangeries pour participer à cette émission.
D'accord.
On s'est toujours dit, si un jour ils nous contactent, hors de question, on ne veut pas. Et on a été contactés. Donc, en janvier l'année dernière, et au début, on s'est dit, oh non. Et finalement, on est revenu sur notre position parce qu'on est un peu des challengers quand même.
Ça fait deux fois que tu utilises le terme et je l'entends. Tu vois, moi, je dis tout le temps, je suis un peu un compétiteur. J'aime mieux ton terme parce que dans compétiteur, il y a compétition et machin. Challenger, je trouve ça plus vertueux, plus bienveillant. Tu vois, t'es dans le challenge, t'es dans le défi, quoi.
On tente. On avait envie de tenter. Et du coup, on s'est lancé dans cette aventure donc l'année dernière. Alors, normalement, ça ne devait pas prendre beaucoup de temps, assez facile à mettre en place. Honnêtement, beaucoup d'administratifs à mettre en place. Ça a été tourné le 12 et 13 mai de l'année dernière.
Ah oui, donc c'est fait, quoi. C'est tourné
et
tout.
Ah, c'est fait. On sait les résultats, mais on ne dira rien. Il faudra être devant vos écrans le 28 mars.
Vous avez signé un NDA, un Non-Disclosure Agreement, pour pas... Voilà.
Okay. C'est ça. Et donc, ça a été tourné l'année dernière. On est en compétition avec une autre boulangerie des Sables, donc le Fournil de Pépettes.
Ouais. Et ils ont eu le tournage à peu près à la même période ou pas du tout ?
Alors, eux, c'était le matin, nous, l'après-midi, journée. Okay, et puis, le lendemain, on était tous les deux présents aussi. Parce qu'en fait, la première journée, c'est le duel. Donc, quand on s'affronte, la deuxième journée, ce sont les régionaux.
Okay.
Donc, on était présents la deuxième journée ensemble. Voilà, ça a été une super aventure avec eux, même avec les autres, parce qu'on en connaît d'autres qui participent à cette aventure. Hâte ou pas de voir, parce qu'on n'a pas de visu sur l'émission, on la verra en même temps que tout le monde, donc on ne sait pas sur deux jours de tournage qui sera gardé.
Ouais, vous n'avez aucune vision de l'émission,
non.
Pas d'avant-première, rien quoi.
Non, Pas d'avant-première, rien du tout. On a su la date de la diffusion la semaine dernière, donc on le sait que 3 semaines avant.
Ça sera quand ?
Le 28 mars.
28 mars, d'accord.
28 mars, c'était une expérience complètement folle. Et on remercie d'ailleurs tous les salariés qui nous ont suivis dans cette aventure stressante.
Ouais.
Parce que mine de rien, quand ils arrivent à 7h le matin, ils posent un micro à tout le monde. Au début, on fait très attention, ouais. On est un peu stressé, il ne faut pas que je dise n'importe quoi.
Ouais.
Et finalement, le micro, on l'oublie. Donc, on ne sait pas ce qu'ils vont garder.
Un peu comme sur le podcast.
Oui, bah, peut-être, ouais. Donc, ouais. Super aventure. On va se réunir tous ensemble avec toute l'équipe pour visionner cette émission de la meilleure boulangerie de France. On verra ce que ça donne. Mais bon, on est content d'avoir participé à cette émission. Et puis, en espérant qu'elle nous fasse de la bonne pub, quand même.
Super. Bon, ça, j'espère aussi. Je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. Franchement, c'est enthousiasmant. Je trouve ça vraiment cool. Et on sent justement là le fait que vous alliez, ça paraît logique, hein, mais tous vous rassembler dans l'équipe pour aller visionner le truc ensemble et tout, c'est sympa, ça crée des bons souvenirs, quoi.
Ça nous paraît important. En fait, moi, je n'arrive pas à concevoir le fait que, écoute, toi, tu resteras au magasin parce qu'il faut quelqu'un qui tienne le magasin. Puis nous, on ira regarder chez nous. Non, on se rassemble tous. On a vécu cette aventure tous ensemble. Tout le monde s'est impliqué, d'autres plus que. Forcément, on a eu un binôme, donc Jackie et Thomas, le chef boulanger, qui sont très mis en avant tous les deux. Donc, important qu'ils soient là. Et après, en vente, tout le monde ne pouvait pas être présent parce qu'on est une grosse équipe. En vente, on a été 4-5
présents. Le jour J, quoi.
Ouais.
Ouais, parce que tout s'est fait sur une journée.
Deux
journées.
Ouais.
Ok. Impeccable. Pour terminer, une ou deux questions. Habituel du podcast, je demande à chaque fois à l'invité de nous partager un bon plan. Alors, il est hors de question que tu me partages ta boulangerie. Je veux plus entendre parler.
Ah, mince.
On n'est pas forcément dans l'alimentaire. Quand je dis dans l'alimentaire, dans le resto ou dans le magasin pour des choses à manger, ça peut être n'importe quoi. C'est quoi si tu avais un bon plan à partager sur le coin, ton coup de cœur ces derniers temps?
Alors,
tu peux en dire un ou deux, hein, si tu veux pas vexer.
Est-ce que ça sera audible ou intéressant pour les auditeurs, je sais pas. Mais moi, mon petit coup de cœur, c'est de prendre un peu de temps dès que je le peux, surtout sur la saison estivale, d'amener mes deux gars, parce que j'ai deux garçons, prendre un petit goûter sur leur remblai. Pourquoi pas faire un peu de surf Alors, je suis très nulle en surf, mais au moins partager ces petits moments-là. Et le top du top, c'est de rester jusqu'au coucher de soleil et puis de prendre une petite boisson, pizza avec des amis.
C'est vrai que souvent, on nous dit, mais vous partez où en vacances et tout? Mais c'est vrai que l'été, des fois, non, mais c'est le slogan de la boule, mais qui, je trouve, s'adapte presque aussi bien, voire mieux au Sable d'Olonne, c'est travailler au pays des vacances, quoi. Et c'est vrai que...
Et ça, on le répète très souvent à nos enfants, on leur dit, mais vous vous rendez compte la chance que vous avez? Vous avez déjà un panel d'activités énorme sur les sables, et en plus, très facilement, on arrive à déconnecter, en fait, parce qu'on va sur ce remblai, on voit cette mer, enfin, on oublie tout. Donc, les sables, c'est un très bon endroit pour vivre et il y a plein d'endroits sympas, mais le petit coup de cœur, c'est au coucher de soleil là, avec des amis, à boire un petit verre et puis un petit morceau de pizza et puis c'est parti.
Dernière question, pour 2024, est-ce qu'il y a des grands projets pour Lucette ou pour toi à titre perso?
Moi, à titre perso, non, à part passer sereinement mes 40 ans.
Ouais.
au terme pro, tout simplement, déjà, meilleure boulangerie de France, il faut qu'on assure derrière, parce que je pense qu'il y aura un impact. Et puis, c'est aussi l'année du Vendée Globe, donc une grosse année pour nous. Donc, faut tout faire pour que ça se déroule le mieux possible. Et de faire en sorte que l'équipe soit toujours en place, qu'elle s'entende toujours aussi bien. Et puis, voilà. Parce que mine de rien, sans notre équipe, on n'est rien. Donc, c'est important que tout le monde se sente bien au travail.
Eh bien, impeccable. Ça sera le mot de la fin. Sans notre équipe, on n'est rien.
Voilà.
C'est quelque chose que j'étais amené à, à dire également, et ça fait du bien de se l'entendre dire, et c'est totalement vrai. Merci énormément pour cet échange. Pour moi, ça a été, comme je te le disais tout à l'heure, et ceux qui auront le courage d'écouter jusque-là vont se dire, il radote, il répète, mais ça a été un échange très facile pour moi, en tout cas de mon point de vue.
C'était très sympa en tout cas, merci pour l'invitation. Ouais,
merci à toi pour ta proactivité dans l'échange et puis ta sincérité dans ton partage d'expérience. C'est cool, j'espère que les gens apprécieront. Pour ceux qui n'y sont pas déjà allés, mais tout le monde a déjà été faire un tour, allez faire un tour à la boulangerie, manger les bons cannelés, les bons gâteaux nantais, les bonnes baguettes de chez Lucette. Bon courage pour la saison estivale, on n'y est pas encore. Et d'ailleurs, le temps aujourd'hui ne nous laisse pas penser qu'on s'en rapproche. bon courage pour la saison estivale, pour la période du Vendée Globe. T'as raison, c'est vrai de le rappeler. Ça va être un gros rush pour les commerçants à la fin de l'année. Merci à toi. Bonne fin de semaine. Et encore bravo à toute ton équipe pour tout ce que vous véhiculez.
Bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Ouais, bonne journée.
Salut.
Si vous êtes encore là, c'est que cet épisode vous a plu. Du moins, j'espère qu'il vous aura apporté une vision enthousiasmante du métier et qu'il aura un petit peu balayé les idées reçues. En tout cas, un grand merci pour être resté jusqu'au bout. Vous faites partie de nos auditeurs préférés et assidus. N'hésitez pas, si vous avez quelques minutes à nous accorder, à mettre un commentaire et puis 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, etc. Je vous remercie à nouveau. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures comptables. Salut !